Chapitre 4. Aux Trois Chênes, l'escapade de Luz avait passé inaperçue. Néanmoins, la petite fille, par besoin inné de sincérité, la conta à Mademoiselle Élise quelques jours plus tard. L'institutrice la gronda, à sa manière ferme et douce, puis lui fit promettre de ne plus recommencer. « Mais vous me laisserez aller lui dire bonjour quand je le verrai dehors, mademoiselle » demanda-t-elle. « Certainement, mon enfant, vous lui devez de la reconnaissance et je suis heureuse de voir que vous n'en manquez pas. Mais il ne faut pas, pour cela, vous rendre coupable de désobéissance ainsi que vous l'avez fait l'autre jour. » À Claire, Luz ne dit mot de sa visite à Kerlozo. Puisqu'Albert et elle méprisaient O.L. parce qu'il était pauvre et mal vêtu, eh bien, il ne saurait rien du tout de ce qu'elle avait vu là-bas, de tout ce que le petit garçon de Kerlozo lui avait raconté. Il serait son ami à elle toute seule. Voilà. Cependant, le printemps, l'été passèrent sans que Luz eût occasion de parler à O.L. Celui-ci continuait d'éviter les habitants des Trois Chênes. Luz ne l'apercevait que de loin, dans la campagne. Elle lui criait « Bonjour, O.L. » avec de gentils petits signes d'appel. Mais O.L. se contentait d'enlever son chapeau et s'éloignait très vite. Claire disait à sa cousine « Tu es bête de l'appeler comme ça. Maman dit que c'est un sauvage. Et puis, il est sale. » Luz protestait avec indignation. « Ce n'est pas vrai du tout. Ses mains et sa figure sont très propres, j'ai bien vu. » C'est à cause de ses vieux habits déchirés qu'il fait d'abord cet effet-là. Mais ce n'est pas sa faute. Un garçon, il ne peut pas les raccommoder. » Un jour, pendant la leçon de couture, elle confia à l'institutrice. « Il faut que je me dépêche de savoir très bien coudre parce que je voudrais pouvoir mettre des pièces aux vêtements d'O.L. Il aurait, comme ça, l'air moins pauvre. » Et dans ce but, elle apportait au travail à l'aiguille une attention extraordinaire qui lui avait fait défaut jusqu'alors. Vers la fin de septembre, Mademoiselle Élise s'absenta pour une quinzaine de jours. Madame Cibreux, chaque après-midi, fit faire aux petites filles leur habituelle promenade. Mais un jour, retenue par une visiteuse, elle chargea de ce soin Albert en lui recommandant de ne pas les emmener trop loin. Ils s'en allèrent tous trois avec Fox, le chien de chasse de M. Cibreux. Albert flânait en sifflotant. Les petites filles, et surtout Luz, couraient de-ci, de-là, faisant 10 fois le chemin à l'exemple du pointeur. Puis elles montèrent à l'assaut d'une éminence sur laquelle se dressait un vieux moulin aux ailes brisées. Fox les précédait en gambadant. Mais, en haut, il fut accueilli par un aboiement rauque et Luz, qui venait avant avec sa cousine, vit le chien de Kerlozo qui grondait sourdement, les babines soulevées, en regardant l'intrus. Elle appela « Fox, viens ici, Fox !» Mais Fox, chien très gâté, avait deux défauts principaux, la désobéissance et un caractère susceptible. Cet accueil lui déplut fortement, sans doute, car il gronda à son tour et sauta sur Kenok. Ils roulèrent ensemble sur l'herbe qui couvrait l'éminence. De derrière le moulin surgit O.L. un livre à la main. Il cria « Ici, Kenok, ici !» Et la petite voix de Luz appelait toujours « Fox, Fox !» Mais les deux bêtes ne se lâchaient pas. Plus jeune, plus souple, Fox tenait sous lui Kenok et lui enfonçait ses crocs dans le cou. Cependant, le vieux chien réussissait quand même à le mordre. Et il grondait, furieux, l'écume aux lèvres. Claire appelait « Albert, Albert !» Luz criait « Ils vont se tuer !» O.L., lui, se jeta résolument sur les chiens et saisit Fox par son collier. Mais l'animal, se détournant, le mordit au bras. O.L. ne le lâcha pas cependant. Il réussit à l'entraîner à quelques pas plus loin. À ce moment, Albert apparaissait en courant. Il appela le chien, qui voulut bien obéir, en jetant un coup d'œil de rancune vers son adversaire. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le jeune garçon. Claire s'écria. « Ils se sont battus. C'est ce vieux vilain chien qui grognait. » Luz intervint avec vivacité. « Mais c'est Fox qui s'est jeté dessus, et il a mordu O.L. » Elle s'élançait vers le petit garçon, qui relevait la manche de sa veste. « Oh, mais oui, ça saigne. Il vous a fait bien mal ?» O.L. dit laconiquement. « Oui. » Il était un peu pâle et serrait les lèvres. Albert s'approcha, jeta un coup d'œil dédaigneux sur le bras maigre et blanc où se voyaient les marques sanglantes des crocs de Fox et dit d'un ton important « C'est la faute de votre chien. Il grogne toujours dès qu'il en voit un autre. Quand on a une bête répugnante comme celle-là, on la garde chez soi. » Un peu de rougeur monta au visage pâli. Les yeux verts se foncèrent, devinrent presque noirs, en s'attachant sur le gros garçon qui prenait un air provoquant. Hoël dit un ton dur, étrange en cette bouche d'enfant. « Ici, c'est à tout le monde. Mon chien a le droit d'y être, tout comme le vôtre. » « Voyez-vous, ce mendiant, quelle toupée !» Le gros Albert, furieux, se dandinait en roulant des yeux irrités et en frappant ses mollets de la petite canne de jonc qu'il tenait à la main. Hoël se redressa, le regard étincelant. « Je ne suis pas un mendiant, je m'appelle Hoël de Pendegui et mon oncle m'a dit qu'autrefois vos ancêtres étaient les valets des seigneurs de Carlozo. » « Ah bien, ah bien !» Albert étouffait de rage. « Tu vas voir comment je traite leurs descendants, en tout cas !» Et il se précipitait sur Hoël, la canne levée. Mais l'enfant, laissé nerveux, se jeta de côté, saisit le jonc qui retombait en sifflant dans le vide et l'arracha à son agresseur. Luz s'élançait vers eux avec un cri d'effroi. « Albert, quel méchant! Oh, pauvre Hoël !» Le garçonnet jeta au loin la badine en tournant le dos à Albert. Puis, s'écartant, il sortit son mouchoir pour étancher le sang qui coulait sur son bras. Il était très rouge et ses mains tremblaient. Luz, les yeux pleins de larmes, lui présenta son mouchoir, un peu chiffonné mais bien blanc. « Tenez, prenez aussi le mien. Comme ça saigne !»« Ce ne sera rien. Je vais aller chez monsieur le recteur et sa mère me mettra quelque chose dessus. Ne pleurez pas, Luz, et merci pour votre mouchoir. Mais je n'en ai pas besoin. » Il appela Kenok, qui s'était relevé péniblement, et vint à lui en boitant. Tous deux s'éloignèrent et disparurent derrière le moulin. Albert les suivit d'un regard mauvais, en marmottant rageusement. « Attends, je te revaudrai ça quelques jours, chenapan, miséreux, ça ose faire le fier avec des haillons sur le dos !» Il vit tout à coup se dresser devant lui une petite créature au visage empourpré, aux yeux brillants, qui lui cria en tendant les poings vers lui. « Tu es un méchant, un méchant, un méchant! Je te déteste! Mademoiselle Élise m'a expliqué. Ça s'appelle un lâche quand on bat quelqu'un de plus petit. Eh bien, tu es un lâche! Lâche! Lâche !» Elle mettait toute sa force dans ses épithètes, la petite Luz. Et elle ne cria que de plus belle quand son cousin, dans un geste de fureur, lui eut appliqué un soufflet sur la joue. Claire geignait. « Tais-toi! « Albert, ne te mets pas en colère. Allons-nous-en. »« Oui, partons. » Et le jeune garçon, sans s'occuper si Luz le suivait, commença de descendre l'éminence avec sa sœur. Luz demeura un instant en arrière. Elle venait de ramasser sur l'herbe le livre qu'elle tenait à la main au moment de son intervention. C'était un vieux petit volume relié en peau. En l'ouvrant, elle vit qu'il était écrit en une langue étrangère. Elle pensa... « Je vais le cacher, parce que si ce méchant Albert le voyait, il serait capable de le déchirer, et je tâcherai de le rendre bientôt à Hoël. » Le petit garçon et Kenok avaient repris le chemin de Kerlozo. Les yeux verts restaient assombris et des tressaillements de colère agitaient le fin visage. Hoël avait fort à faire pour lutter contre son orgueil. L'orgueil bien connu des Pendegui disait son oncle qu'il n'en était pas dépourvu à sa manière. Aussi le recteur s'efforçait-il d'inculquer à son élève une sincère et profonde piété, seule capable de combattre le terrible défaut. Mais, en ce moment, Hoël oubliait tous les enseignements reçus. Il n'existait en lui qu'une colère, un mépris frémissant pour ce gros garçon vaniteux et brutal qui avait voulu le frapper. Ah, il avait appelé chenapan, miséreux. Eh bien, lui, Hoël, était tout de même plus fier d'être un Pendegui que de s'appeler Albert Cibreux. Ainsi, roulant dans son cerveau toutes ses pensées, il rentra au logis. Mais comme il passait le pont, la vieille Périne apparut dans la cour en levant les bras au ciel. Et elle cria de sa voix cassée « Monsieur Hoël, vite, allez chercher monsieur le recteur et le médecin. Je viens de trouver monsieur quasi mort dans son fauteuil. » Hoël s'exclama « Mon oncle ? Ah, je cours, Périne !» Mais il eut beau faire diligence, ce n'était plus qu'un cadavre qui reposait dans le grand fauteuil, devant la table couverte de papier jauni, quand le prêtre et le médecin furent introduits au rez-de-chaussée de la tour des Ducs.